France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Un grand entretien ce matin avec Marion Lourd. Nous recevons deux avocates pénalistes au barreau de Paris. Elles ont pris la plume pour faire l'éloge et prendre la défense de la présomption d'innocence. C'est le titre de cet essai à quatre mains qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un éloge donc, mais aussi une question posée à l'ensemble de la société, à nous tous, sur les principes de l'état de droit, les principes qui nous gouvernent ou devraient nous gouverner. Vos questions, réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Marie Dosé, Julia Minkowski, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et bienvenue, vous le disiez, Julia Minkowski, on dit un ténor du barreau, au féminin ça donne
Ténora, ou en tout cas c'est ce que nous avions choisi avec notre éditrice Clara Dupont-Monod, quand nous avons publié un autre livre, L'avocat était une femme, où d'ailleurs on faisait avec Lida Vignoli un entretien de Marie.
Marie Dosé,
bien sûr, et c'est le titre d'un documentaire qu'on a fait avec Lisa sur les femmes avocates pénalistes.
Ténora, et c'est vrai que c'est assez fort ce que vous faites dans cet essai, hein. C'est à la fois une histoire, c'est de la présomption d'innocence, c'est aussi un éloge, mais on a le sentiment que ça aurait pu être une oraison funèbre, comme si c'était finalement un principe, une chimère, une illusion aujourd'hui, que le respect de la présomption d'innocence. Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Vous êtes toutes les deux avocates, la présomption d'innocence, elle a disparu, elle a besoin d'être défendue. Julia Minkowski, Marie Dosé, qui veut commencer?
En tout cas,
Marie Dosé.
Je pense qu'elle a besoin d'être expliquée, parce que les gens peuvent lire dans la presse des articles très à charge où on décline les accusations et où, à la toute fin, il est écrit « N'oublions pas que cet homme est présumé innocent ». Et c'est vrai que souvent, on est interrogé, mais enfin, est-ce qu'il suffit de dire « cet homme est présumé innocent » pour respecter la présomption d'innocence ? Et c'est vrai qu'on a voulu écrire un livre pédagogique pour expliquer le fondement de ce principe et puis sa déclinaison, puisque on voit plus très bien où et quand le respect de la présomption d'innocence est effectif.
Et jusqu'où et jusqu'à quand? Alors justement, mesdames, essai de définition, la présomption d'innocence, elle ne vaut pas pour tout, partout et de tout temps. Elle apparaît à partir du moment, Julia Minkowski, où une plainte a été déposée.
Dans la loi, aujourd'hui, la présomption d'innocence ne peut s'appliquer que lorsque la justice est saisie. C'est-à-dire que hors des affaires judiciaires, évidemment, on ne peut pas non plus accuser les gens de n'importe quoi. C'est le droit de la presse qui intervient. Et dans ces cas-là, si on vous traite de voleur, vous pouvez poursuivre votre accusateur,
pour diffamation.
Le journaliste, pour diffamation. Exactement. En revanche, dès lors que vous êtes poursuivi, la présomption d'innocence s'applique, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, c'est-à-dire qu'une personne condamnée en première instance, à partir du moment où elle décide de faire un appel, ou même si elle est de nouveau
condamnée en appel, elle fait appel. Et même si elle est recondamnée en appel, elle est toujours présumée innocente.
Si elle a formé un pourvoi en cassation, tout à fait. Jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée, que la décision soit définitive, une personne est présumée innocente. Les recours sont prévus par la loi. Ce sont des droits qu'il faut respecter.
Alors justement, Marie Dosé, ce sont des droits. À quoi elle sert, la présomption d'innocence? C'est une garantie de l'état de droit? C'est indispensable pour un procès équitable?
Oui, parce que en fait, c'est d'abord un principe qui relève du régime de la preuve. C'est-à-dire que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité. C'est pas aux mises en cause de prouver son innocence. Et j'allais dire, sinon quoi ? Évidemment que si on doit prouver qu'on n'a pas fait quelque chose, c'est ce qu'on appelle, nous, les juristes, la preuve diabolique. Établir un fait négatif, c'est impossible. Donc c'est évidemment à l'accusation de prouver la culpabilité de quelqu'un. C'est d'abord ça, hein, le respect de la présomption d'innocence.
Julia Minkowski, et pourtant, vous dites toutes les deux dans votre livre que la présomption d'innocence est en danger. Comment ça se fait, puisque c'est si important?
Je crois qu'il y a une appétence qui n'est pas nouvelle, hein, à condamner, à pointer du doigt, à écarter, à faire des parias, à trouver des boucs émissaires. L'envie de critiquer l'envie de se satisfaire d'une certaine soif de vengeance, parce que les gens sont en colère, et parfois à raison d'ailleurs, et toujours plus forte que de se féliciter du bien. Enfin, c'est le, pour parler un peu plus vulgairement, c'est le bad buzz, ça a toujours mieux fonctionné que le reste.
D'ailleurs, proclamer une innocence, je vous cite, a fini par passer pour une nouvelle forme d'escroquerie. La justice aurait seulement échoué à rassembler suffisamment de preuves contre un coupable. On a le sentiment, en vous lisant, c'est extrêmement dur et c'est contre-intuitif, que parler de présomption d'innocence, finalement, ça ne vaut pas grand-chose maintenant qu'on est entré dans ce que vous qualifiez d'ère du soupçon, Marie Dezay.
En tout cas, il est vrai qu'on est de plus en plus confronté à ce discours qui est « il a été relaxé, il a été acquitté ». Ça ne veut absolument pas dire qu'il est innocent, ça veut dire que la justice a manqué de preuves pour le déclarer coupable. Alors, en soi, il est vrai que la justice déclare coupable ou non coupable. Elle ne déclare pas innocent, elle déclare coupable ou non coupable. Mais si on considère que quelqu'un qui est relaxé et acquitté est finalement un coupable qui a échappé à la justice... Mais c'est catastrophique.
Mais encore une question de principe, pourquoi dire que l'innocence n'existe plus ? Ou plutôt que l'acte d'innocenter ne suffit plus à innocenter personne ?
C'est comme ça, que c'est véritablement comme ça, en tout cas dans certaines affaires, que c'est perçu. Je pense que les gens, aujourd'hui, ne considèrent plus la vérité judiciaire comme celle qui doit s'imposer à toutes les autres. Ce que nous expliquons dans ce livre, c'est qu'il est normal que dans une société, plusieurs vérités existent. Mais qu'à un moment donné, seule la vérité judiciaire doit sonner de récits qui peuvent être contradictoires. Pourquoi ? Parce que la justice s'impose des contraintes et des garanties qu'aucun journaliste ne s'impose. Lorsque vous avez des enquêtes à charge et que le journaliste va recevoir deux textos, le policier, lui, il est obligé de prendre tout le téléphone et d'exploiter tous les messages. Lorsque le journaliste va interroger un témoin, le témoin peut lui dire n'importe quoi et lui mentir. La justice, elle, si le témoin ment, peut le poursuivre judiciairement.
Mais le journaliste n'est pas censé être un juge. Ce que vous dites, c'est qu'il faut respecter ce qu'on appelle le... contradictoire.
C'est ça. Et on rencontre...
Alors expliquez-nous justement ce que ça voudrait dire.
On rencontre, Julia et moi, de grosses difficultés là-dessus. C'est-à-dire que le contradictoire aujourd'hui, c'est répondre dans un temps très, très court à des questions. Ça n'est pas du tout confier des éléments à un journaliste qui va enquêter à des charges sur ces éléments.
Oui, une enquête journalistique à décharge devrait prendre autant de temps et d'attention que l'enquête à charge. Et la réalité est notre quotidien avec Marie, et encore là, cette semaine à mon cabinet pour deux personnes, c'est que sont reçues des questions à la veille ou deux jours avant la publication d'un papier, et les journalistes en font très peu de cas. Là, je viens d'avoir un client qui a répondu quelques lignes en disant « Attendez, vous m'interrogez sur quelque chose dont je n'ai moi-même pas eu connaissance. » Naissance des accusations, je ne sais pas qui, je ne sais pas exactement ce qu'on me reproche, je ne sais pas quand. Comment voulez-vous que je vous apporte un contradictoire utile ? Et la réponse de la journaliste, c'est « Merci pour vos réponses, c'est bien noté, au revoir ». Il me dit « Mais en fait, elle s'en fout ». Je suis bien obligée de lui dire oui.
Alors, on a quand même aussi une déontologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre non plus tous les médias et tous les journalistes, évidemment, dans le même panier. Mais il faut donner des exemples, et vous le faites dans le livre Marie Dezay, des exemples de personnes qui ont été accusées dans le sillage de MeToo, qui finalement ont été blanchies. Il y en a, je pense à Julien Bayou, par exemple, parmi tous les exemples que vous donnez dans le livre.
Oui, alors,
Julien Bayou, l'écologiste.
Oui, alors c'est une affaire assez compliquée, parce que dans cette affaire-là, Julien Bayou, il y a de surcroît à l'intérieur d'un parti, deux enquêtes qui vont être menées, enfin en réalité une seule, mais on va nous faire croire que la commission chez les Verts, les écologistes, d'enquête, de la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes a été saisie pendant 8 mois, alors qu'en réalité elle n'a pas été saisie et qu'il n'y a eu aucune instruction. Puis 2 ans plus tard, on va confier à un cabinet d'avocats une enquête, non pas sur des faits, mais sur un homme, Julien Bayou. C'est-à-dire qu'on n'est pas saisi de faits à ce moment-là, on est saisi sur est-ce que cet homme a commis quelque chose.
Et contre celle qui était sa compagne à l'époque, c'était ça qui était allégué.
Voilà, c'est elle qui, à un moment donné, dépose plainte, mais sur des faits qui n'ont strictement rien à voir avec le parti. Donc, en fait, là, véritablement, dans cette affaire, il y a eu une forme de lynchage. Véritablement. Et le pire, c'est que quel que soit le résultat, il est nécessairement coupable. Lorsque Sandrine Rousseau, après qu'il soit blanchi sur l'enquête, dit « ça prouve que l'enquête n'a pas su accueillir la parole des femmes », ça pose quand même une difficulté. Lorsqu'on vous dit « puisqu'il n'y a pas eu d'enquête, c'est qu'il n'est pas innocent », en gros, il est de toute façon toujours
coupable.
Julia Minkowski, vous vouliez compléter.
Oui, qu'on ne s'y trompe pas, hein, Marie comme moi. Nous ne disons absolument pas que les personnes qui s'estiment victimes de quelque chose ne doivent pas parler. Notre sujet est la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre, et je crois de façon assez pédagogique, en expliquant l'histoire de la présomption d'innocence, d'où ça vient,
loin, on quand est-ce que ça s'applique. On remonte au principe du droit romain, au pape Innocent III, par exemple.
Ouais, exactement.
Qui porte bien son nom.
Ce qu'on veut, tout à fait. Ce qu'on veut dire, c'est que tout le monde peut parler. Ce qui nous inquiète, c'est comment la société reçoit ces accusations. Comment est-ce que les médias, je ne généralise pas, mais enfin, je constate quand même très souvent la même chose. Comment est-ce que les médias traitent ça? Et quand vous avez un papier extrêmement long et que simplement à la fin, il est dit que la personne conteste et qu'elle est présumée innocente, et encore, ça c'est déjà bien, parce que très souvent, on parle du présumé meurtrier, du présumé violeur, c'est-à-dire qu'on inverse totalement le principe.
C'est une présomption de culpabilité et non pas une présomption d'innocence.
Il y a une présomption de culpabilité aujourd'hui, c'est certain.
Alors, un autre exemple et un autre cas d'école, c'est par exemple un article de Mediapart en novembre 2019, sur lequel vous revenez, dans lequel l'actrice Adèle Haenel accuse Christophe Ruggia d'agression sexuelle. Ça a déclenché ensuite un mouvement de libération des paroles, ça a donné une plus grande force au mouvement MeToo cinéma. Christophe Ruggia, il a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, sous bracelet électronique. Vous le regrettez, ou est-ce que vous regrettez que là aussi la présomption d'innocence ne s'applique pas? Vous écrivez, on passe désormais au crible la vie sentimentale des personnes. Je ne sais pas s'il est vraiment question de vie sentimentale concernant le
alors
cas.
Alors attendez, il faut pas tout confondre. Haenel, on ne dit Ruggia absolument pas non, ça non, s'agissant ça. Du cas Adèle Haenel. Il faut distinguer les choses. C'est aussi d'ailleurs ce qu'on regrette, c'est que tout est mélangé, quels que soient les degrés d'accusation des personnes qui se comportent mal avec leur compagne comme des goujats et des personnes qui sont accusées d'agression de sexuelle ou de viol. Ce n'est évidemment pas la même chose. Ni Marie ni moi ne sommes les avocates de Christophe Ruggia, donc on ne va certainement pas porter une appréciation sur sa culpabilité ou pas. Il a fait appel, il est présumé innocent. Moi, ce qui m'a interrogé dans la décision qui a été rendue, c'est pas le fond de la décision, je ne connais pas le dossier, hein. C'est pas le fond de la décision, c'est comment elle a été accueillie. Il y a eu des cris de joie dans la salle d'audience. C'est quand même assez particulier d'exprimer une forme de liesse populaire parce qu'une personne est condamnée à une peine de prison. Je crois qu'il y a une certaine décence à avoir un procès, ça reste le procès d'une personne.
Mais le paradoxe, alors donc, c'est qu'il est présumé innocent, Christophe Ruggia, ou Marie Dosé ?
Oui, c'est pas un paradoxe, c'est l'application du principe, puisqu'il a interjeté appel. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de constater que lorsque Adèle Haenel révèle ses accusations à Mediapart, elle le dit clairement, elle dit « moi je veux pas déposer plainte, parce que de toute façon c'est que des classements sans suite et que nous ne sommes pas entendus dans ce type de dossier ». Ben, force est de constater que cette affirmation, là, elle est contredite par la réalité judiciaire, puisque finalement, il y a eu une ouverture d'informations judiciaires et qu'au bout du bout, il a été condamné. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Il est présumé innocent et ce n'est pas du tout mon propos.
Je précise juste que je vous posais la question, en tout cas, de la vie sentimentale, parce que c'est dans le même paragraphe où vous parlez à la fois de l'affaire Adèle Haenel et ensuite que vous parlez donc de la perquisition du passé, de la vie d'un homme.
On le constate, c'est exactement dans l'affaire Julien Bayou qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que Julien Bayou, il n'était pas accusé d'une infraction pénale. Sandrine Rousseau l'a même déclaré en sortant du plateau de C'est à vous et
Patrick Cohen était revenu à la santé morale des femmes.
Oui, Patrick Cohen était revenu là-dessus d'ailleurs après en disant attention, Sandrine Rousseau dans les coulisses m'a dit que il n'y avait pas d'infraction pénale. Parfois, oui, vous avez des papiers dans certaines publications qui viennent simplement vous expliquer comment telle personne s'est très mal comportée sans qu'il n'y ait de plainte, sans qu'il n'y ait de qualification pénale, parce que les journalistes sont quand même pas encore des juges. Et là, oui, il y a une perquisition dans la vie sentimentale de certaines personnalités. Est-ce que ça a un intérêt légitime pour le public de la connaître? Moi, je pense que non. Après, si on veut dire qu'on a été agressé sexuellement, c'est évidemment autre chose. Oui. Et on ne veut surtout pas, Marie et moi, être instrumentalisés comme des partisanes anti-MeToo. Évidemment qu'on est contre les violences sexuelles.
Ah non, vous soutenez MeToo, vous dites juste qu'il y a un fanatisme qui en est dérivé. Et c'est une autre histoire.
Mais exactement, qui pourrait être contre le fait qu'on mette un terme définitif aux violences sexuelles ? Évidemment que nous trouvons ça un combat tout à fait légitime. On dit simplement, parce que c'est notre fonction en tant qu'avocate pénaliste, qu'il y a certains principes à respecter. Pourquoi ? Parce que sinon, tout le monde est menacé demain. Si on se base sur l'arbitraire, le « on vous croit », mais chacun peut croire qui il veut, mais la société ne peut pas prendre pour argent comptant comme une vérité, une accusation sans qu'elle ait été vérifiée avec des moyens dignes de ce nom. Et c'est aussi le problème de la justice et le défi de la justice de mettre les moyens pour lutter contre cette infraction-là.
Mais Marie Dosé, c'est là qu'elle est la ligne de crête. C'est-à-dire qu'en novembre 2019, l'article de Mediapart sur Christophe Roggia et Adèle Haenel, c'est aussi ça qui déclenche, en tout cas qui renforce le MeToo en France. Mmh. Et vous dites que la presse peut être un pilori médiatique. Comment faire pour se faire écho de ce MeToo, qui peut libérer aussi la parole, qui peut dénoncer des comportements qui n'ont pas lieu d'être, tout en maintenant la présomption d'innocence? C'est très difficile.
Mais je vais vous dire, non, je crois pas. Je crois que c'est une question d'équilibre. Que beaucoup de femmes soient allées dans les commissariats où est saisie la justice en regardant Adèle Haenel, non pas le faire parce que c'est le parquet qui a ouvert, hein, elle ne souhaitait pas le faire, mais en constatant qu'une procédure judiciaire était en cours et que Adèle Haenel allait au commissariat finalement et devant les juges d'instruction, tant mieux, tant mieux. Que ça puisse aider les femmes à se dire, eh ben moi aussi je vais le faire, tant mieux. Mais voyez, dans cette affaire-là, qui, encore une fois, on n'en parle pas dans notre livre, mais c'est l'actualité, je l'entends bien. Dans cette affaire-là, ce qu'on constate aussi, c'est que l'interpellation de Christophe Roggia et sa garde à vue ont été annulées. Pourquoi ? Parce que Christophe Roggia avait très clairement dit « Mais moi, je suis à la disposition de la justice, je veux absolument m'expliquer », et qu'on est allé l'arrêter chez lui à 6h du matin, en tout cas, j'ai cru comprendre cela, hein, alors même qu'il était à la disposition de la justice, et qu'il ne faut pas, il faut une porosité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la pression médiatique puisse contaminer le judiciaire, il faut que le temps médiatique et le temps judiciaire puissent ne pas se faire du mal. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est presque mission impossible. C'est là-dessus que nous alertons.
Alors, question d'Alain, avant d'aller au standard, qui demande si le problème n'est pas la présomption d'innocence, mais plutôt le secret de l'instruction.
Oui, tout à fait. Alors, on
qui écrit n'existe plus.
On écrit un long chapitre hein, sur cette question-là. Ça va de pair. Évidemment que ceux qui ne sont pas connus, et moi je défends 99% de personnes que personne ne connaît, des citoyens et des justiciables lambda, oui, ne sont pas confrontés à la violation de leur présomption d'innocence comme peuvent l'être des personnalités. Parce que les médias s'intéressent surtout à des gens célèbres. Et il est vrai que la violation du secret de l'instruction va de pair avec la violation de la présomption d'innocence.
Et pour autant, ce qu'on constate, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons écrit notre livre, c'est comment est-ce que ce piétinement, cet effritement de la présomption d'innocence infuse dans toute la société. Et on a des cas, par exemple, je pense, dans des universités, mais même parfois dans des lycées. Comment est-ce que vous voulez que les jeunes comprennent qu'une accusation ne peut pas donner lieu à une exclusion immédiate ? Comment voulez-vous que les gens comprennent qu'on ne peut pas, sur les groupes WhatsApp et sur Facebook, désigner, pointer du doigt une personne comme étant un violeur parce qu'il a été accusé de quelque chose, alors que les adultes s'en donnent à cœur joie sur Twitter et aussi dans les institutions en écartant les gens. Je veux dire, le cas par exemple d'Ibrahim Malouf, c'est quelque chose de très symbolique.
Sur lequel vous revenez ?
On revient souvent dessus parce que c'est vrai que là, vous avez une personne qui a été condamnée en première instance, relaxée en appel. Donc,
qui n'a pas pu être juré du festival de Deauville, voilà, alors qu'il avait été blanchi.
Exactement. D'un point de vue définitif, il est non coupable, mais le festival de Deauville, alors qu'il avait été choisi pour faire partie du jury, a finalement, à la faveur d'un changement de direction, décidé de l'écarter parce qu'il aurait été relaxé au bénéfice du doute. Et donc, bah, dans le doute, le festival de Deauville a décidé d'écarter. C'est une espèce on érige le principe de précaution avant le respect de la décision judiciaire. On trouve ça très regrettable.
Bonjour Aurélien et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour messieurs, dames.
Bienvenue, vous êtes juriste.
Je suis juriste de formation et moi j'ai un constat, il y a un constat que je fais, c'est que l'opinion publique réclame de plus en plus une justice punitive plutôt qu'une justice réparatrice. Et je voulais savoir si ça influait pas sur les décisions des juges. Et est-ce qu'en dernier lieu, ça ne nuisait pas à la présomption d'innocence ?
Merci Aurélien pour votre question. Marie-Dosée, vous vous acquiesciez pendant la question d'Aurélien.
Oui, mais il suffit de constater la surpopulation carcérale grandissante ces dernières années. Enfin, il n'y a jamais eu autant de détenus depuis 1945. Et encore avant 1945, on ne les avait pas comptés, je crois. Et c'est tout le temps, de plus en plus, de comportements qui sont incriminés. Et en même temps, le sentiment... que l'impunité règne. C'est ça qui est extraordinaire, quand même.
Oui.
C'est-à-dire, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de très paradoxal. On réclame de plus en plus de justice et en même temps on ne cesse de la décrier. Elle est laxiste, alors même qu'il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées. Et vraiment, il y a quelque chose de très paradoxal dans un sentiment qui n'est pas juste par rapport à la réalité de ce qui est la réalité judiciaire.
Et le paradoxe, c'est qu'on entend par exemple un ministre de l'Intérieur remettre en cause l'état de droit, et ça, c'est quelque chose sur lequel vous revenez justement sur les propos de Bruno Retailleau, Julie Mitkowski.
Oui, Bruno Retailleau qui vient déclarer l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, ça ne peut que heurter profondément notre ADN de juriste. Oui, nous sommes attachés à des principes qui, si, ils sont intangibles et ils sont sacrés. C'est-à-dire que d'ailleurs, parfois, ça nous est reproché que nous, on serait peut-être presque des ayatollahs des principes de la déclaration de 1789. Mais il faut voir d'où venait cette déclaration, les débats qui ont animé les constituants. C'est extrêmement intéressant. Y compris sur la présomption d'innocence, parce que la façon dont la présomption d'innocence a été établie, la formule est de dire que tout homme étant présumé innocent, c'est-à-dire qu'il a été décidé, eh bien en fait on va dire que c'est comme ça, c'est un état naturel. Tout homme étant présumé innocent, on va respecter telle et telle chose. Et on cite une décision de la Cour suprême du Canada que moi j'adore, parce que la formule, elle est parfaite, c'est de dire pourquoi est-ce que la présomption d'innocence existe, c'est parce qu'on part du principe que les hommes sont bons, que ce ne sont pas des criminels en puissance. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Et moi, je pense qu'on doit rester attaché à ça. On doit faire confiance au départ. Et ce n'est que si quelqu'un dévie qu'il sera alors traité comme un criminel. Quand on aura vérifié, pas avant.
Alors, vous parlez dans vos pages de nombreux exemples, y compris de celui de l'abbé Pierre. Nos confrères de France Info révèlent ce matin qu'un homme qui se dit victime de viol de la part de l'abbé Pierre quand il était mineur dans les années 80 vient de saisir une instance qui est chargée de l'indemnisation, donc qui n'est pas une instance judiciaire, qui est une instance qui a été créée, qui est religieuse. En revanche, le parquet a décidé de ne pas ouvrir d'enquête concernant l'abbé Pierre parce que les faits sont prescrits, ce qu'a regretté l'Église. Alors, question de Thiéno sur l'application France Inter, Marie-Dosée, l'abbé Pierre est-il présumé innocent ?
Oui, l'abbé Pierre est mort depuis 18 ans et la mort du mis en cause est une cause d'extinction de l'action publique, d'accord ? Mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on ne supporte plus les causes d'extinction de l'action publique, que ce soit la prescription, puisque y a quand même une boîte de Pandore qui a été ouverte, hein, c'est-à-dire que dès l'instant où une circulaire du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a considéré qu'il fallait ouvrir des enquêtes préliminaires sur des faits prescrits, on s'interrogeait sur le livre, mais quand est-ce qu'on va ouvrir des enquêtes préliminaires sur des mise en cause décédée.
Vous avez fait un éloge de la prescription d'ailleurs, Marie-Dosée.
Oui, voilà, mais je pense que tout ça est un piège. La justice est là pour se saisir de faits commis par un mis en cause, pour rechercher l'auteur, et pas pour réécrire une histoire qu'elle ne pourra pas résoudre.
Mais ça existe, l'amnésie traumatique, par exemple. Ça a été montré, que des victimes peuvent oublier les choses pour se protéger en quelque sorte, et que ça ressort 10, 20, 30 ans après.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'on a allongé les délais de prescription. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une victime mineure peut déposer plainte jusqu'à ses 48 ans. Tout cela a déjà été pris en considération, évidemment.
Julia Minkowski ?
Oui, tout est une question d'équilibre. Évidemment qu'il faut répondre et prendre en considération cette amnésie traumatique. Comme le dit Marie, les délais ont été considérablement allongés. Mais on ne peut pas non plus oublier que venir enquêter sur des faits qui se sont déroulés à une époque si ancienne, ça pose un problème de recueil de la preuve, ça cause un problème pour une accusation. Il faut construire quelque chose et la justice a tellement, tellement de choses à traiter. C'est aussi ça le sujet, c'est aussi pragmatique. C'est te dire, là, il se passe aujourd'hui, il y a des mineurs qui sont agressés, il faut s'en préoccuper. Et vous savez, dans nos cabinets, c'est pas évident pour les personnalités qui n'ont pas de notoriété, qui n'accusent pas des personnes célèbres et qui se retrouvent à porter plainte pour des faits qui viennent de se produire et elles attendent un an, deux ans et demi pour que leur agresseur, en tout cas celui qu'elle accuse, soit placé en garde à vue. Et le matin, au petit déjeuner,
c'est
elles
l'anonymat
entendent
parce que ça n'intéresse pas.
Pardon ?
C'est l'anonymat, donc ça n'intéresse pas.
Ben, en tout cas, ça prend beaucoup trop de temps. C'est vrai que la justice française est beaucoup trop lente. Et que dans des affaires médiatiques, parce que ce sont aussi des bons coups de com' pour le parquet, hein, il ne faut pas s'y tromper, on va placer en garde à vue des gens alors qu'on sait que les faits sont prescrits. Normalement, la circulaire disait que dans ces cas-là, il n'y a pas de garde à vue. On va agir extrêmement vite pour des faits qui ont 30 ans parce qu'ils ont été très médiatisés. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
En tout cas, c'est absolument passionnant. Il y a des choses, par exemple, qui concernent l'abbé Pierre sur lequel on revenait, qui interrogent la société, même le besoin de fabriquer des héros. On va devoir en rester là, malheureusement. J'aimerais juste citer cette phrase du Talmud que vous citez et qui est régulièrement revenue dans la bouche de Emmanuel Lévinas. Si tout le monde est d'accord pour condamner un prévenu, relâchez-le, il doit être innocent. Merci infiniment à toutes les deux. Marie-José, Julia Minkowski, l'éloge de la présomption d'innocence. C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée.